Il était une fois l'histoire d'un petit garçon prénommé Thomas Mémurlin, passionné de cuisine qui avait un rêve bien précis, ouvrir son restaurant. Le petit garçon est aujourd'hui devenu grand et surtout devenu le CEO de Huggies Bar, chaîne de 11 restaurants de burgers gourmets en Belgique, lancée en 2012 à Liège, alors qu'il travaillait encore en parallèle chez Accenture. Transformer un projet local en projet de vie et positionner le secteur de la restauration dans l'univers des entreprises à forte croissance, c'était le pari osé de Thomas que nous découvrons aujourd'hui. Bienvenue sur Once Upon a Business, le podcast qui explore les stratégies business et les retours d'expérience des experts financiers. Je m'appelle Florence et j'anime cet épisode pour Once Upon a Business, un podcast créé par Emma Sphere, plateforme SaaS de reporting pour les financiers. Avec ce podcast, nous vous proposons un condensé des parcours de femmes et d'hommes qui osent. Apprentissage, conseils et ma morale de leur histoire, si vous restez jusqu'à la fin, vous saurez tout. Thomas, bonjour et bienvenue dans cet épisode de Once Upon a Business. Je viens de te présenter en quelques secondes avec les informations que j'avais à ton sujet. Peux-tu nous en dire plus sur toi ?
Bonjour, donc je suis Thomas Mémurlin, fondateur et CEO de Huggies Bar. De Huggies Bar, comme tu l'as dit, c'était un rêve pour moi quand j'étais petit d'ouvrir mon propre restaurant. Et donc j'ai la chance d'avoir réalisé mon rêve. De Huggies Bar, d'où ça vient? En fait, c'est la rencontre, je pense, de trois choses principales. Donc, premièrement, j'ai étudié HEC, donc j'ai fait des études de gestion. J'ai toujours voulu gérer, être un homme d'affaires quand j'étais petit aussi. Donc, ça, c'est une première chose. Deuxièmement, j'ai toujours eu une passion pour la cuisine, pour l'horeca. J'ai toujours adoré cuisiner chez moi, pour ma famille, pour mes proches, et notamment des burgers. J'en ai déjà cuisiné beaucoup à domicile. Et troisième chose, en fait, c'est après les études, avant de rentrer dans le train-train professionnel, avec mon ami et cofondateur Roberto, on s'est dit qu'on allait se faire un énorme voyage, se faire vraiment plaisir avant de commencer à travailler. Et là, on est parti aux États-Unis. On a fait New York et Las Vegas. Et là, on est tombé complètement amoureux de la culture américaine, de l'esprit positif qu'ils ont, de l'attention au client, du service client. Et bien sûr, des burgers bars, des burgers restaurants là-bas qui sont d'une autre qualité que ce qu'il y avait chez nous à l'époque, qui au final n'existait pas encore vraiment, quoi. Et donc on revient en Belgique, des étoiles plein les yeux, des États-Unis, et qu'on prend en compte la gestion et la passion de l'horeca, ça donne de Huggies Bar.
C'est comme ça que de Huggies Bar est né.
Voilà, tout à fait, en septembre 2012.
Ok, et justement par rapport à Huggies Bar, est-ce que tu peux en dire plus, présenter l'entreprise ?
Oui, bien sûr. Donc, de Huggies Bar, de base, c'est quoi? C'était vraiment notre envie de proposer une expérience restaurant autour de burgers de qualité. Donc, on voulait vraiment élever le burger et en faire un vrai plat de restaurant et dans une expérience restaurant avec du service, un accueil, entrée, plat, dessert, etc. Et donc, Huggies Bar, aujourd'hui, c'est 11 restaurants en Bruxelles et Wallonie. C'est plus de 250 personnes employées. Et en 2022, on vise un chiffre d'affaires d'un peu plus de 15 millions d'euros.
Et donc, retour en 2012, justement, quand tu as lancé Huggies Bar, à ce moment-là, l'aventure commence. Quelle est ta vision sur le développement de l'entreprise à ce moment-là?
L'idée première, c'était vraiment de lancer un restaurant pour commencer, parce que c'était notre rêve d'ouvrir un restaurant et on voulait commencer par là. Maintenant, effectivement, dans les mois qui ont précédé le projet, on en discute, on passe des soirées un peu à réfléchir et effectivement, c'est difficile de pas penser plus loin ou s'imaginer, tiens, qu'est-ce qui se passe, si ça fonctionne, si ça cartonne, jusqu'où on veut aller. Donc effectivement, il y avait toujours cette idée derrière la tête de peut-être voir les choses réussir et grandir, mais on voulait vraiment se concentrer d'abord sur un restaurant. Et donc, c'est ce qu'on a fait. On a lancé le premier de Huggies Bar en septembre 2012.
Donc, commencer petit pour après garder quand même en tête cette idée de potentiellement plus tard avoir quelque chose de beaucoup plus conséquent.
Oui, tout à fait. Je crois que c'est important de vraiment y aller étape par étape et de pas se précipiter. Je crois que la patience est quelque chose de très important et c'est ce qu'on a fait. On a lancé un premier restaurant et on a vraiment pris le temps de voir si ça fonctionnait, de voir ce qui fonctionnait, de voir comment on pouvait l'améliorer avant de penser à grandir et à dupliquer.
Justement, maintenant, on est en 2022, donc 10 ans plus tard. De l'eau a coulé sous les ponts depuis, ou je devrais dire des burgers ont défilé dans tes cuisines. Avec toute l'expérience que tu as maintenant, quels sont les points les plus importants que tu prends en compte quand tu veux ouvrir un nouveau restaurant ?
Les points les plus importants, il y en a énormément. Je crois que c'est vraiment une combinaison d'une multitude de choses. Quand on travaille à cette échelle, on ne laisse rien au hasard et on prend vraiment tout en compte. Et donc, on prend toute l'expérience de toutes les ouvertures passées, tout le feedback client, toutes les analyses de vente. Et donc, on prend vraiment tout ça en compte pour optimiser petit à petit chaque nouveau restaurant.
Ok. Et par rapport au process, quand tu lances un nouveau restaurant, quelles sont les étapes vraiment par lesquelles tu passes?
Donc, la première étape, ça va être vraiment l'identification des villes dans lesquelles nous voulons nous ouvrir. Et donc là, on travaille avec une agence de géomarketing qui va nous aider à identifier et calculer le potentiel des villes dans notre marché, parce que pour l'instant, c'est notre vision de continuer à ouvrir dans notre marché qui est Wallonie-Bruxelles. Donc ça, c'est vraiment la première étape, c'est voir dans quelle ville on veut ouvrir, plutôt au niveau macro, et puis au niveau micro, là, on va vraiment commencer à identifier déjà des rues ou des segments de rues pour voir, OK, voilà vraiment les zones plus précises dans lesquelles on veut s'implémenter. Ça, c'est première étape. Ensuite, ça va être la recherche d'emplacement, donc là, via du repérage sur place, via des agences immobilières, via du bouche à oreille, des contacts, donc vraiment pour trouver l'emplacement. Puis une fois qu'on a l'emplacement, là, on va vraiment rentrer déjà tout ce qui est négociation, pour soit acheter, soit négocier un bail. Et une fois qu'on a sécurisé l'emplacement, là, alors, on va vraiment se lancer dans le projet. Et donc là, il y a une période de plus ou moins 6-7 mois qui est divisée en deux. Il y a une première partie de 2-3 mois qui va vraiment être de projet, de conception du restaurant. Et donc, c'est une partie très importante parce que c'est là qu'on va définir un peu l'outil de travail avec lequel le staff plus tard va travailler. Et donc, c'est important qu'il soit très optimisé au niveau de la disposition, de l'agencement, au niveau des flux pour que ce soit agréable pour les clients, qu'on puisse mettre assez de tables assises, mais aussi au niveau des serveurs. Notre plus gros coût dans la restauration, c'est pas la nourriture, c'est un deuxième très très proche, mais c'est le coût des employés. Et donc, les employés, c'est du temps, c'est des déplacements. Donc, plus les déplacements sont courts, moins on a besoin d'employés. Donc, c'est vraiment très important que le restaurant soit optimal. Et donc voilà, cette première partie très importante de conception du projet. Et puis après, il y a la partie plus aménagement, construction, qui ça est une partie assez difficile du métier pour nous, parce que c'est un petit peu, c'est différent. C'est pas de la gestion de restaurant, c'est pas de l'horeca, c'est plus de la construction. Donc ça s'éloigne assez fort de notre expertise. Mais voilà, petit à petit, on acquiert aussi l'expérience et c'est important que les travaux se passent bien. Et donc voilà, après 6 mois, plus ou moins, le restaurant est prêt à être ouvert. Et donc là, il y a toute la gestion du lancement avec la mise sur pied d'une équipe, la formation. Et puis après, voilà, c'est le restaurant qui est prêt à s'ouvrir.
À s'ouvrir, à être lancé, quoi. Et justement, tu disais que maintenant, en 2022, il y a 11 restaurants. Ça fait un rythme assez soutenu de restaurants ouverts par an. Comment tu trouves les fonds nécessaires pour financer ces ouvertures de nouveaux restaurants?
Alors, la question du financement, c'est une question qui a toujours été un peu délicate pour nous, en tout cas au début. Maintenant, on a mis des solutions en place qui nous permettent d'être beaucoup plus sereins par rapport à ça. Mais voilà, en tant que deux jeunes, fraîchement diplômés, peu d'expérience, qui se lancent dans l'horeca, c'est pas facile. Les banques ne sont pas très très friandes de l'horeca. Et donc effectivement, quand on s'est lancé, ça n'a pas été facile. Et donc, si d'habitude tu peux mettre 20% de fonds propres et chercher le reste en crédit bancaire, nous on était plutôt à 60% de fonds propres et la banque a accepté gentiment de nous prêter le reste. Et on parle de tout petit montant, parce que on était jeunes, on se lançait, on n'avait pas énormément de fonds propres. Donc on a ouvert vraiment le premier restaurant avec petit budget. On a eu la chance de trouver une bonne opportunité, un bon endroit, un restaurant existant. On a pu récupérer pas mal d'équipements. Voilà, donc le premier restaurant, ça a été un peu compliqué, mais on s'en est sorti. Et puis après, quand on a décidé d'ouvrir le deuxième, troisième et vraiment d'accélérer la croissance, et là, on a quand même pris un temps assez long. On a pris 2 ans et demi, en fait, entre le premier et le deuxième, pour vraiment laisser le temps au concept de mûrir, de l'optimiser, etc., de vraiment tout documenter pour permettre une croissance, posée et qualitative. Et là, en fait, c'est à ce moment-là, au niveau deuxième, qu'on a commencé à trouver, les solutions de financement qu'on allait utiliser par la suite, quoi. Et donc, d'un côté, on a trouvé, en quelque sorte, un business angel qui a rejoint le groupe et qui s'est engagé à financer les fonds propres des 10 prochains restaurants, des 10 premiers restaurants. Donc ça, c'était une grosse épine du pied qu'on nous retirait. Donc voilà, on n'avait pas besoin de fonds propres. Il venait de ce business angel. Et en parallèle, on a travaillé avec les banques, où on a défini un accord cadre pour tous les prochains restaurants, et avec des invests locaux comme Noshak. Et donc voilà, on avait en fait nos fonds propres sécurisés, et puis un accord avec banque et Noshak, et la Sobalfin aussi, qui était là pour garantir une partie des crédits. Donc voilà, on avait vraiment défini un mix qui fonctionnait bien pour nous et qui nous a permis de un peu nous sortir cette problématique du financement hors de la tête, parce que voilà, il y avait quelque chose qui était en place.
Donc un peu de retirer cette partie financement et pouvoir se concentrer vraiment pour toi sur le core business et le développement de ton activité en fait.
Voilà, exactement, c'était très important pour nous, parce que si à chaque ouverture de restaurant on devait perdre autant de temps et d'énergie que ce qu'on a fait pour le premier restaurant et se demander tiens, est-ce qu'on va trouver l'argent, peut-être, peut-être pas, pour moi ça aurait pas été sain comme environnement de croissance, et comme tu viens de le souligner, c'est important pour nous de nous concentrer sur notre métier, sur l'ouverture des restaurants, sur les restaurants, et pas perdre autant de temps et d'énergie à la recherche du financement.
Justement, donc tu as maintenant un petit réseau de restaurants à gérer. Comment tu compares la performance de tes différents restaurants? Est-ce que tu te bases sur, comme tu disais tout à l'heure, tu te bases sur ces analyses-là pour l'ouverture de nouveaux restaurants? Comment tu intègres cette partie plus background qu'on ne voit pas en tant que personne qui vient au restaurant, par exemple? Comment tu intègres ça dans ton job?
Donc à plusieurs niveaux, déjà je crois que c'est important de le préciser, on est très très friand de tout ce qui est chiffres, on est vraiment data driven, c'est très important pour nous. Pour prendre un exemple, on a donc un système de caisse qui va donc enregistrer toutes les habitudes de consommation client. On a aussi un système de réservation en ligne. On a la chance d'avoir une clientèle qui réserve beaucoup. Bon, c'est aussi dû à notre succès, où les gens préfèrent réserver pour être sûr d'avoir une place. Mais donc, ça nous donne énormément d'informations. Et donc, l'exemple que je voulais donner, c'est on a toutes les infos de réservation. Et donc, qui vient manger quand, combien de personnes, à quel moment de la journée. Et donc, grâce à ça, on a pu optimiser les tables de nos restaurants. On sait, par exemple, que des tables de 2, 3, 4, 5, 6 représentent plus de 75% de notre clientèle. Et donc, ça veut dire que des tables de 10, 12, on ne doit pas en mettre trop dans les restaurants. Et donc, on se concentre sur des tables de 2 modulables qui peuvent se mettre 2 plus 2, 4, 2 plus 2, plus 2, 6. Et donc, ça permet, avec des tables de 2, d'avoir énormément de flexibilité et de pouvoir, entre guillemets, maximiser le nombre de personnes qu'on sait accueillir.
Donc, ça influence du coup vraiment l'aménagement du restaurant.
Voilà, exactement. Ce genre de stade peut influencer l'aménagement du restaurant. Après, il y a tout ce qui est habitude de consommation qui nous permet de peaufiner notre menu petit à petit. On va pouvoir voir quels sont les best-sellers, quels sont les items qui se vendent le moins. Et donc, petit à petit, on va itérer et améliorer le menu.
Ok. Et d'un point de vue plus business, donc background qu'on ne voit pas forcément, est-ce qu'il y a aussi des analyses qui sont faites?
Oui, bien sûr. Donc, effectivement, comme je viens de mentionner, il y avait la partie un peu plus opérationnelle, vente, chiffres. Après, de l'autre côté, il y a aussi une partie opérationnelle et financière. Et opérationnelle, effectivement, on va accorder beaucoup d'importance au staff, au turnover, à la performance aussi. Comme toutes les commandes sont passées via tablette, avec un identifiant, on sait ce que chaque serveur prend comme commande, encaisse, au niveau des délais, des erreurs, des annulations. Donc, on a énormément de stats par rapport à ça aussi. Donc, ça permet de suivre et de les coacher. En fait, on va voir, ce staff-là vend autant de pourcentage de starters ou autant de pourcentage de desserts. Et donc, ça nous permet un peu d'identifier, qui a des performances plus hautes que la moyenne, qui a des performances un peu plus basses. Et donc, ça nous permet de creuser. Et donc, comment est-ce que tu fais pour vendre autant de desserts? Parce que tu vends deux fois plus de desserts que le reste du groupe, quoi.
Pour potentiellement, après, former les autres à ce qu'ils fassent
voilà,
la même
exactement.
Chose, quoi.
Et donc, ça nous permet de creuser. Et il va peut-être nous expliquer qu'il a une phrase spéciale qui fonctionne. Et quand il dit cette phrase-là, il vend plus de desserts ou ça lui permet de vendre plus, quoi. Et donc, effectivement, c'est très important pour nous, avec le groupe qu'on a, d'aller puiser dans ce savoir, dans cette expérience, et de l'appliquer au reste du groupe.
C'est super intéressant ce que tu dis, parce que même le fait que tu dises que l'entreprise est vraiment data-driven, c'est vrai que d'un point de vue extérieur, on a plutôt l'a priori en se disant que le secteur de la restauration, ça va être plutôt une entreprise qui va pas forcément prendre en compte cet aspect très data. Et donc, c'est vraiment innovant finalement cette façon de gérer ton business dans le secteur de la restauration.
Oui, tout à fait. Et je crois que c'est lié à nos études, à notre gestion et à notre envie d'aller plus loin et effectivement d'un peu révolutionner le secteur. Je crois que à l'époque, quand on s'est lancé, il y avait beaucoup plus de restaurants, je dirais un peu plus traditionnels, où c'était une famille ou un cuisinier qui lançait son restaurant. Maintenant, on voit qu'il y a une nouvelle vague d'arrivants dans le secteur de la restauration qui sont tout autant passionnés. Bon, peut-être pas tous, mais ça, c'est un autre débat. Mais il y en a beaucoup qui sont passionnés, mais qui apportent cette couche un peu plus moderne, un peu plus professionnelle, avec de la gestion, avec une bonne communication. Et effectivement, c'est très important pour nous. Tout ça, mais ça n'a pas été toujours facile parce qu'effectivement on s'est heurté à d'un côté des clients qui n'étaient pas spécialement prêts. Quand du jour au lendemain on dit aux clients bah tiens, on n'a plus de téléphone, c'est seulement de la réservation en ligne, bah, il y a quelques clients, enfin il y a 10 ans ça n'existait pas, ou en tout cas pas en Belgique. Et donc voilà, on a dû un peu lutter, on a dû éduquer, on a dû expliquer. Mais maintenant quand un client ne voit pas de réservation en ligne, il est déçu maintenant. Donc, ça évolue quand même très, très vite. Hein. Ça, c'est le côté client. Mais il y a le côté staff aussi, où il a fallu aussi un peu éduquer, s'adapter. On avait un membre dans notre tout premier restaurant qui, lui, était vraiment plutôt travailleur de restaurant traditionnel. Et donc, on lui a dit, « Ah, c'est un système qui va prendre des réservations à ta place. Tu n'as plus besoin de ton bic et de ton carnet. » Mais il était un peu perturbé aussi. Il avait du mal à faire confiance. « Ah, mais... je connais mon métier, ça va pas savoir faire mieux que moi. » Donc là aussi, il a fallu un petit peu d'éducation, de patience. Mais voilà, ça se passe super bien. Et puis après, il y a aussi tout ce qui est fournisseurs, partenaires. Des fois, des choses qu'on voulait faire en termes de récupération de données, en termes de mise en place de systèmes, d'automatisation, etc., ben, simplement n'étaient pas disponibles, n'existaient pas. Et donc par exemple même notre système de caisse enregistreuse, notre système de réservation, des fois on leur demandait tiens, est-ce que vous avez une API pour se connecter, pour récupérer les données, c'était des demandes qu'ils n'avaient jamais eues. Ah, pourquoi vous avez besoin de ça, personne ne m'a jamais demandé ça. Donc ça n'a pas toujours été facile pour nous au début de mettre tout ça en place, mais c'est génial de voir que 10 ans après ça devient un peu le standard. Il y a de plus en plus d'entreprises qui proposent des solutions automatisées.
Les choses ont bougé finalement, donc de faire passer cette innovation à travers tous les différents partenaires et prestataires. Maintenant, avec presque 10 ans d'expérience, comment tu ferais les choses potentiellement différemment que les premiers restaurants que tu as ouverts?
Ben, si je devais changer quelque chose sur les 10 ans, je ne changerais rien. Je suis tellement content de où on est maintenant que j'aurais envie de rien changer, de peur qu'on arrive à un endroit différent. Maintenant, clairement, il y a une énorme prise d'expérience et il y a des choses maintenant qu'on fait beaucoup mieux qu'à l'époque, qu'on fait plus vite, qu'on fait avec plus d'attention, avec plus de qualité. Donc ça, c'est très important. Donc voilà, je ne ferai rien différent, mais effectivement, il faut apprendre, il faut évoluer, il faut faire mieux qu'avant.
Super. Nous arrivons déjà aux questions traditionnelles de fin. Je vais donc te poser la première. Qui considères-tu comme ton mentor de ta carrière professionnelle?
Ben, je n'ai pas deux mentors, je n'ai pas un mentor, parce que je n'ai pas une personne qui va regrouper tout ce que je sais ou tout ce que je veux, mais je crois que c'est très très important d'avoir des mentors ou des personnes inspirantes. C'est pas tout seul dans son coin qu'on va apprendre, qu'on va s'inspirer. Je crois que c'est vraiment important de se renseigner un maximum, d'être ouvert, d'écouter, de lire. C'est très très important. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'avance. Et ça permet d'avoir une vision beaucoup plus large, je pense.
De s'entourer des bonnes personnes.
Voilà.
As-tu une potion magique ou une botte secrète?
J'en ai plein.
Non, dis-nous tout.
S'il y en a une que je peux partager maintenant, quelque chose qui fonctionne bien pour moi et je crois qu'il est important, c'est de mettre en place des systèmes qui fonctionnent et de pas, par exemple, ne pas se baser sur la motivation. Si on se base sur la motivation pour réussir, ben on a déjà raté. On ne doit pas attendre d'être motivé. On doit mettre en place un système qui fonctionne, une récurrence, une routine. Et parce que voilà, y a tellement de travail, il y a tellement de choses à faire, ça ne doit pas être dépendant de la motivation. Donc ça, c'est peut-être un conseil que j'aime bien donner quand je vois des gens peut-être un peu plus jeunes ou quand je fais des interventions auprès d'étudiants, parce que c'est très très important. C'est il ne faut pas se baser sur la motivation.
C'est intéressant ce que tu dis, et quand tu parles de système, tu aurais un exemple à donner?
Oui, c'est mettre en place des routines au niveau de l'organisation de son temps, au niveau par exemple de la planification des tâches, de la documentation des tâches. Je suis vraiment persuadé que c'est très important d'avoir une structure. Pour moi, c'est la structure qui permet de grandir, pas l'inverse. Des gens qui se disent « Ah, je grandis, puis j'aime me structurer », ben non, parce qu'après, t'as le nez dans le guidon, puis tu ne sais plus avancer. Alors que si tu es bien structuré, ça va te permettre justement de mieux avancer, plus vite. Pour moi, c'est important d'avoir des systèmes, de la structure en place qui vont permettre d'avancer et qui vont donner les bonnes fondations, justement, pour avancer.
Un process qui permet d'avoir les bonnes bases, quoi. Et pour clôturer, quelle est la morale de ton histoire ?
La morale de mon histoire, je crois que, comme tu le mentionnais en début, il faut croire en ses rêves et à un moment donné, il faut se lancer aussi. Pas n'importe comment, pas n'importe quoi, mais je crois que c'est important de se dire que quand on veut quelque chose, si on veut l'avoir, il faut essayer, il faut se lancer. Et je crois que la morale de mon histoire, c'est que c'est possible d'atteindre son rêve. Mon rêve, c'était d'ouvrir un restaurant. Je l'ai fait. J'ai beaucoup travaillé. Et en essayant de faire les choses bien, en y mettant le temps, en étant patient aussi, c'est très important, on y arrive.
Croire en ses rêves, donc, c'est le petit mot de la fin pour cet épisode. Thomas, merci. Merci pour ton temps. Merci de nous avoir partagé ton parcours inspirant sur cet épisode. Il est à présent temps pour nous d'aller goûter un de tes délicieux burgers, parce qu'il est déjà abouti. À bientôt et bonne journée.
Avec plaisir. Merci beaucoup.
Once Upon a Business est une production Emasphère, solution SaaS d'analyse et de prévision pour financiers. Pour nous aider à faire grandir le podcast et continuer d'inviter des profils inspirants, laissez une note 5 étoiles et un commentaire sympa sur votre plateforme d'écoute et suivez-nous sur LinkedIn pour ne rien manquer de nos contenus inédits.